Laudetur Jesus Christus.
Audience générale place Saint-Pierre ce matin. Le pape Léon XIV a poursuivi son cycle de catéchèses dédié aux paraboles de Jésus, s'arrêtant ce mercredi sur la parabole des vignerons. En saluant les pèlerins venus de France, le souverain pontife a souhaité insister sur la défense de la valeur de la vie humaine, même en sa dernière heure. On y revient juste après les titres. Regain de tension à la frontière israélo-syrienne. L'armée israélienne a bombardé hier le sud de la Syrie après des tirs vers Israël, dont Damas nie être responsable. Les taxes américaines sur l'aluminium et l'acier grimpent à 50%. Dans ce contexte de fortes tensions commerciales, Pékin appelle à des relations saines avec Washington. Et puis au Mexique, raz-de-marée pour les juges et magistrats proches de la gauche au pouvoir lors des élections dimanche. Ce scrutin inédit et controversé marqué par une très faible participation.
Radio Vatican, le journal, Alexandra Sirgan.
Bonjour à tous. La parabole de la vigne du Seigneur donne de l'espérance, car en sortant et en allant vers Dieu, on trouve toujours un sens à sa vie. Léon XIV a poursuivi le cycle de catéchèses dédié aux paraboles de Jésus lors de l'audience générale place Saint-Pierre ce matin, devant 35 000 personnes. Il a exhorté les jeunes principalement à ne pas attendre pour répondre à l'appel de Dieu. Les précisions de Xavier Sartre.
La parabole des ouvriers de la vigne, un récit qui nourrit notre espérance. Léon XIV, après avoir passé presque une demi-heure à saluer en papa mobile la foule massée place Saint-Pierre, est revenu sur ce récit de l'évangile de Matthieu qui met en scène le maître de la vigne et les ouvriers. Tel Dieu qui veut aller à notre rencontre, qui aime notre vie et qui croit en nous, le maître propose à ses travailleurs de venir dans sa vigne pour y recevoir ce qui est juste. À ces hommes qui peuvent penser ne pas avoir de but dans la vie, il donne ce qui est nécessaire pour vivre comme le fait le Seigneur, que ce soit aux ouvriers de la première heure comme aux derniers de la journée, ce qui ne va pas sans malentendu.
Gli operai della prima ora non riescono a vedere la bellezza del gesto del padrone.
Les ouvriers de la première heure ne voient pas la beauté du geste du patron qui n'a pas été injuste mais simplement généreux. Il n'a pas seulement considéré le mérite mais aussi le besoin. Car Dieu donne son royaume à tous et Jésus ne fait pas de classement mais se donne tout entier à qui lui ouvre son cœur. Citant saint Augustin, Léon XIV exhorte et tout particulièrement les jeunes à ne pas tarder à suivre celui qui nous appelle. Retrousse les manches car le Seigneur est généreux et tu ne seras pas déçu, affirme le Saint-Père qui demande au Seigneur de sortir à nouveau et de nous rejoindre là où nous l'attendons.
Xavier Sartre, et dans son salut aux pèlerins venus de France, Léon XIV a regretté, je cite, que notre monde peine à trouver une valeur à la vie humaine, même en sa dernière heure. Que l'Esprit du Seigneur éclaire nos intelligences pour que nous sachions défendre la dignité intrinsèque de toute personne humaine, a-t-il exhorté. Un appel qui intervient alors qu'en France est discutée une proposition de loi sur la fin de vie qui légaliserait le suicide assisté. Le pape Léon XIV, qui s'est aussi adressé aux pèlerins arabophones présents place Saint-Pierre, ne nous décourageons pas, a-t-il lancé. Même dans les moments sombres de la vie, Dieu vient toujours à notre rencontre avec amour et espérance. Les propos du pape Léon XIV à retrouver en intégralité sur notre site internet vaticannews.va. À la une de l'actualité internationale, escalade importante israélienne hier soir dans le sud de la Syrie, suite au lancement pour la première fois depuis la chute de Bachar al-Assad de deux tirs de roquettes depuis les hauteurs du Golan en direction d'Israël. Damas dément avoir mené cette attaque, revendiquée par deux groupes armés pour le moment inconnus. Tel Aviv pointe pourtant du doigt la responsabilité du nouveau pouvoir syrien qui assure de son côté ne constituer une menace pour personne dans la région. À Damas, Mohamed Erami.
L'armée israélienne affirme avoir riposté à deux projectiles tirés depuis le sud de la Syrie. Ces tirs tombés dans des zones non habitées du plateau du Golan n'ont fait ni victimes ni dégâts, mais ont déclenché des alertes aériennes. Le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, a directement mis en cause le président syrien par intérim Ahmed al-Sharaa, ancien chef islamiste arrivé au pouvoir après la chute de Bachar al-Assad en décembre. En réponse, Damas dément toute attaque et accuse Israël de violer sa souveraineté. Le ministère syrien des Affaires étrangères a insisté, la Syrie n'a jamais été et ne sera jamais une menace pour quiconque dans la région. Sur le terrain, des frappes israéliennes ont visé la région du bassin de Yarmouk, dans la province de Dera. L'Observatoire syrien des droits de l'homme a confirmé des bombardements sans faire état de victimes. Israël, qui dit vouloir empêcher l'acheminement d'armes aux nouvelles autorités syriennes, multiplie les opérations militaires dans la zone frontalière. Mohamed Erami, Damas. pour Radio Vatican.
À quelques centaines de kilomètres de là, dans la bande de Gaza, les centres d'aide de la Fondation humanitaire de Gaza, cette organisation soutenue par les États-Unis et Israël, ferment leurs portes ce mercredi. Une décision justifiée par la tenue de travaux de rénovation et d'amélioration de l'efficacité. Depuis dimanche, les routes menant au site de distribution d'aide alimentaire sont devenues des zones de combat. Au moins 58 personnes ont été tuées par des tirs de soldats israéliens, selon la défense civile palestinienne. Une enquête mandatée par les Nations Unies est en cours. Moscou ne s'attend à aucune avancée rapide dans le règlement du conflit ukrainien. De son côté, Kiev dénonce les ultimatums irréalistes proposés par la délégation russe lors du sommet d'Istanbul lundi. Dans une interview accordée aux médias italiens La Stampa, le secrétaire d'État du Saint-Siège a déclaré que l'échec de ce sommet ne pouvait pas et ne devait pas marquer la fin des efforts pour arrêter la guerre. Le cardinal Parolin a rappelé que le Saint-Siège était disponible pour que les ennemis se rencontrent, faisant écho à l'engagement pris par Léon XIV. S'exprimant également sur le réarmement des pays européens face à la menace russe, le cardinal a souligné que le droit à l'autodéfense n'était pas absolu et pouvait mener à une plus grande déstabilisation. Lui ne cesse de déstabiliser l'ordre mondial. Donald Trump a signé hier soir le décret faisant passer de 25 à 50% les droits de douane imposés aux importations d'acier et d'aluminium. Seul le Royaume-Uni bénéficie d'un accord commercial spécifique et esquive ses tarifs prohibitifs. La Chine, elle, plus grand producteur d'acier et d'aluminium au monde, ne sera pas épargnée. Et pourtant, Jean-Benoît Harel, Pékin semble prôner l'apaisement.
En effet, Alexandra, hier, le ministre chinois des Affaires étrangères a souhaité des relations saines, je cite, entre les deux pays, alors qu'il recevait le nouvel ambassadeur américain. Le ministre Wang Yi a émis le vœu que le diplomate, un fidèle de Donald Trump, travaillera au développement sain, stable et durable des relations entre la Chine et les États-Unis. Ces relations en ce moment se focalisent sur les tarifs douaniers et l'accord obtenu le 12 mai dernier semble déjà vaciller. Washington et Pékin avaient accepté de réduire temporairement leurs droits de douane à respectivement 30 et 10%, mettant fin à une escalade de surtaxes en avril. Mais fin mai, le président américain a accusé les Chinois de fortement ralentir les exportations des terres rares vers les États-Unis. Comme mesure de rétorsion, les Américains ont bloqué le transit de technologies nécessaire au programme aéronautique de l'Empire du Milieu. Afin d'éviter une nouvelle passe d'armes, la Maison-Blanche a indiqué qu'un appel probable aurait lieu cette semaine entre Donald Trump et son homologue chinois Xi Jinping. De son côté, Donald Trump a assuré sur son réseau social Truth apprécier le président Xi, mais il est très dur, s'est-il plaint.
Merci Jean-Benoît Harel. Pendant ce temps-là, l'Union européenne, également très touchée par les taxes douanières américaines, tente de négocier à Paris ce mercredi. Les négociations vont dans la bonne direction, annoncé le commissaire européen au commerce dans la matinée. Les résultats des élections judiciaires au Mexique dimanche dernier se précisent. Élection inédite pour désigner directement les juges, magistrats et ministres de la Cour suprême. Celle-ci sera donc majoritairement composée de juges proches de la gauche au pouvoir. L'opposition craint ainsi pour l'équilibre démocratique du pays. Les précisions à Mexico de Diego Calmar.
L'élection judiciaire qui s'est tenue dimanche faisait craindre à de nombreuses ONG un raz-de-marée en faveur de candidats proches du parti de la présidente Claudia Sheinbaum. Et le résultat est sans appel. Des 9 ministres élus à la Cour suprême, tous sont des proches de Morena, le parti présidentiel. Claudia Sheinbaum a pu surfer sur sa popularité qui atteint les 80% afin que certains juges et des magistrats soient élus. Cette élection visait, selon elle, à lutter contre la corruption et l'impunité qui gangrènent déjà la justice du plus grand pays d'Amérique hispanique. C'est un avocat, Hugo Aguilar, issu d'un peuple autochtone du sud du Mexique, qui a reçu le plus de voix à la Cour suprême. Ce proche de l'ancien président López Obrador, détenteur d'une simple licence de droit, devrait donc devenir président de la plus haute instance judiciaire du pays. L'élection a été marquée par une très faible participation, seulement 13%. Les nouveaux fonctionnaires de justice entreront en fonction en septembre. D'ici là, l'opposition a prévu d'alerter la communauté internationale sur le risque de cooptation de la justice par le parti présidentiel. À Mexico, Diego Calmar pour Radio Vatican.
Le secrétaire pour les relations avec les États a entamé hier une visite de 3 jours à la Havane à l'occasion du 90e anniversaire des relations diplomatiques entre le Saint-Siège et la République de Cuba. Ce mercredi, Monseigneur Gallagher doit rencontrer les évêques du pays. C'est la fin de ce journal. Merci pour votre écoute. L'actualité en langue française revient à 18h heure de Rome en compagnie d'Olivier Bonnel. D'ici là, bel après-midi à toutes et à tous.